Si Dieu est Dieu, il est le Dieu de la création. Et en tant que Dieu de la création, bah, il a créé aussi les animaux, comme les oiseaux là, qui nous accompagnent aujourd'hui. Commençons par un mot de prière. Père Céleste, notre Père, tu nous invites à te prier, à nous tourner vers toi. Et nous te demandons de nous enseigner, de nous guider, comme Jésus nous a guidés il y a 2000 ans, que nous puissions méditer sur ses enseignements, sur la façon qu'il avait d'enseigner, et de pouvoir recevoir ses enseignements dans ta grâce, Père Céleste, et à ta gloire. Amen. Tous les chrétiens, depuis 2000 ans, ont un modèle de prière qui s'appelle le Notre Père. Ce qui se passe, c'est qu'en général, il arrive au Notre Père comme la plupart des traditions humaines. Au bout d'une ou deux générations, on oublie que cette tradition est vivante, qu'elle est faite finalement pour être un enseignement. Et ça devient juste un truc à répéter, qui n'a plus du tout de contenu. Et parfois, il vous est peut-être arrivé de dire le Notre Père comme prière. Qui d'entre vous connaît par cœur le Notre Père? Vous pouvez lever la main. Donc la plupart d'entre vous. Et je dirais, on peut le connaître par cœur et pourtant ne pas le connaître. Et j'aimerais vous montrer, commencer ce sermon par un sketch sur le Notre Père qui introduit cet aspect où quelqu'un va dire le Notre Père. Est-ce que vous pouvez lancer le...
Hein ? Surtout l'écoute.
Voilà, vous pouvez surtout écouter.
Notre Père qui es aux cieux, oui. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as appelé? Oh non, 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 je t'ai pas appelé, je prie. Notre Père qui es aux cieux, là, tu l'as encore fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as appelé. Tu as dit, Notre Père, me voici. À quoi penses-tu? Oh, rien, rien du tout, je prie. Je fais rien de mal, non? Non, au contraire. Continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié, que veux-tu dire par là? Eh bien, je veux dire que... Je ne sais pas, moi, ce que je veux dire. Ça fait juste partie de la prière, c'est tout. Mon nom est différent des autres noms. Mon nom est Jésus. Cela ne te dit rien? Si. J'y avais jamais vraiment pensé avant, mais... Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que fais-tu pour que mon règne vienne? Ce que je fais moi, mais rien du tout. D'ailleurs, il me semble que ce serait pas si mal. Et si tu venais diriger toutes choses ici-bas comme tu les diriges là-haut, est-ce que je dirige ta vie? Eh bien, je vais à l'église, enfin, à Noël, à Pâques, j'y vais, quoi. Tu sais, mon règne a déjà commencé. Mon royaume est en ceux qui suivent les traces de mon fils. Es-tu sûr de marcher dans ses pas? Écoute, Seigneur, je suis aussi bon que toutes ces personnes qui vont à l'église chaque dimanche matin. Comment veux-tu que ma volonté soit faite si ceux qui la demandent ne commencent par l'accomplir? Oh, je sais que j'ai des problèmes. Je suis pas un saint. Moi aussi, je sais. Alors tu sais peut-être que j'aimerais me débarrasser de toutes ces vieilles histoires-là qui m'empêchent d'être vraiment libre. Viens, nous avançons. Nous allons travailler ensemble, toi et moi, et voir des victoires. Non! Ce soir, ça va beaucoup trop loin, et puis ça prend beaucoup trop de temps. Donne-nous notre pain ce jour. Me fais-tu confiance pour le pain? Oui. meurtrier est un acte dangereux. Tu pourrais finir par être changé, tu sais. Mais tu n'as pas fini avec ta prière. Continue. Eh bien, continue. Je peux pas. Tu as peur? Je sais ce que ça veut dire. Et c'est donc, tu verras. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu penses à Brigitte? Voilà. Je savais que tu allais me parler de Brigitte. Mais Seigneur, elle m'a fait beaucoup trop de mal, tu comprends? Et moi, j'ai juré de me venger. Et ta prière? Ça, c'est une question d'habitude, c'est tout. Eh bien, tu es franc au moins. Mais ce n'est pas facile de porter la haine en soi, n'est-ce pas?
Non.
Non, ce n'est pas facile. Mais je vais te dire, une fois que je me serai vengé, moi, j'irai beaucoup mieux.
Ça n'ira pas mieux. Au contraire, tu es déjà tellement triste. Mais moi, je peux changer tout ça.
Toi, toi tu peux. Et comment?
Pardonne à Brigitte. Comme un jour, moi, je t'ai pardonné.
Non, Seigneur, je ne peux pas pardonner à Brigitte. Vraiment, je ne peux pas.
Que disais-tu dans ta prière?
Je vais essayer de pardonner à Brigitte. Je pourrais peut-être essayer d'aller lui parler à elle aussi. Je ne sais pas si elle te prie chaque matin. Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis ta prière. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. C'est ce que je ferai. Mais toi, éloigne-toi du mal. Apprends à vivre dans mon amour. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, que la grâce et la paix t'accompagnent.
C'est la compagnie SketchUp qui est un... On va arrêter. Donc voilà, ça se trouve sur YouTube. Avec un tout petit sketch, ça vous aide à voir que finalement, c'est pas tout de répéter une prière. La prière est dangereuse. Elle peut vous transformer. Elle peut transformer chacun de nous si on est sérieux et si on commence à dire les mots qu'on dit. Souvent dans nos vies, on répète des mots sans les croire. Vous faites ça tous les jours. Vous allez voir des gens. Salut, comment vas-tu? Et la dernière chose que vous voulez savoir, c'est comment la personne va. Surtout si elle va pas bien. Si elle répond par plus que deux mots, bon, écoute, il faut que j'y aille. Et plus vos paroles seront pensées, vécues, plus votre vie va être transformée. Et j'aimerais maintenant qu'on prenne un temps à regarder qu'est-ce que c'est que cette prière du Notre Père qui a été donnée il y a 2000 ans par Jésus. Jésus, quand il parlait, il l'a enseigné dans Matthieu, chapitre 6, que vous trouvez derrière vos feuilles, hein. Derrière vos feuilles, j'ai noté la référence. Matthieu chapitre 6, est-ce que quelqu'un pourrait nous lire les versets juste avant? Est-ce que, Anton, tu es déjà sur le chapitre 6? Est-ce que tu pourrais nous lire les versets 5 jusqu'à 8?
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment la prière debout dans les synagogues et au fond des rues pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de belles paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez.
Voilà, tu peux lire peut-être le verset 9 aussi.
Voici donc comment vous devez prier.
Voilà, merci Anton. Et Jésus va introduire comment prier. Observez bien ce qu'il vient juste de dire. Il a dit, ne priez pas comme les païens qui répètent des paroles. La prière n'est pas d'abord une répétition, la prière est avant tout une relation. Imaginez que je viens voir Alexandre aujourd'hui et que je lui dis, bonjour Alexandre, bonjour Alexandre, bonjour Alexandre, bonjour, bonjour, bonjour Alexandre, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour. Au revoir Alexandre, au revoir Alexandre, au revoir, au revoir, au revoir Alexandre. Vous imaginez une relation comme ça? Vous imaginez faire ça à quelqu'un? La pauvre personne, comment? Désolé Alexandre, je te promets, je ne ferai pas ça avec toi. Ayez du bon sens quand vous priez. Le bon sens n'est pas à jeter à la poubelle, il est à mettre en harmonie avec votre foi. Prier, c'est vraiment chercher Dieu, lui parler. C'est comme lancer une parole vers quelqu'un. Et donc aussi avoir les oreilles ouvertes. Comme vous avez vu dans le sketch, ce qui choque la personne, c'est qu'il pense être tout seul quand il prie. Est-ce que vous pensez être tout seul quand vous priez? Ou est-ce que vous croyez que Dieu est créateur de l'univers? Qu'il est vraiment là? C'est un point tout simple, mais très important. Quand on prie, on est invité à prier avec la foi. La foi que Dieu est là et qu'il nous entend. Et le but n'est pas de répéter des prières. Le pire qu'on puisse faire avec le Notre Père, vous savez ce que c'est? C'est de les répéter à toute vitesse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui, tatatoc. Et puis on démarre une autre juste après. Ça serait nier complètement le but de la prière. Le but de Jésus, c'était enseigner finalement, on pourrait dire, un canevas, une base pour comprendre la foi. Et pour comprendre comment entrer en relation avec Dieu. Pour cela, on a vraiment besoin de méditer ses paroles. On a besoin de méditer ces paroles de Jésus. Et quel était son but? Vous vous rappelez, il a dit juste avant, comme Anton nous l'a lu, ne multipliez pas les paroles. Le but n'est pas de les multiplier. Ensuite, des fois, il y a certains parmi nous qui se disent, pour être vraiment sincère avec quelqu'un, les paroles, ça a besoin d'être nos paroles, ça ne peut pas être les paroles d'un autre. Ce sera l'approche, en général, plutôt protestante évangélique. Il y en a d'autres qui vont dire, plutôt du côté catholique, pour dire une bonne prière, il faut prendre l'exemple sur ce que Jésus a enseigné. Qui a raison? Les deux. Les deux, il y a un peu de vrai des deux côtés. Une prière apprise par cœur peut être puissante si elle est dite avec le cœur et si elle est comprise. Mon but aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est de vous aider à bien comprendre le Notre Père. Et je dirais, le Notre Père peut être lu et prié simplement avec ses paroles, ou il peut être prié avec l'intention de chacune de ses paroles. Et je vais vous encourager la semaine prochaine à prier le Notre Père. Pas seulement le répéter, mais le prier. Et de progressivement rajouter des paroles autour qui correspondent à l'intention de chaque partie. Pour que vous appreniez finalement comment Jésus a enseigné à prier. La plupart du temps, on a appris par cœur le Notre Père et on a cru que c'était fini. Désolé, ce n'est que le début. C'est comme si vous dites, la porte de la maison, si je la franchis, ça y est, je connais toute la maison. Non ? Le Notre Père, l'apprendre, c'est comme entrer dans la maison du Père, de dire « je veux apprendre ». Mais ensuite, il y a à visiter la maison, il y a à découvrir ce qu'il y a dedans. Ce que vous avez perçu à travers quelques mots doit être vécu dans la relation avec Dieu. C'est ce qu'on perçoit un peu, c'est pour ça que je me suis permis de mettre ce sketch au début qui introduit très bien ce sujet, d'une prière qui n'est pas superficielle, qui n'est pas répétitive, qui n'est pas magique. Quand j'utilise le mot « magique », la magie est l'opposé de la relation. La magie est l'opposé de la relation. Dans une relation, on parle et on écoute. Il y a une liberté des deux qui entre en relation. La magie, c'est où on essaye de forcer l'autre à faire ce que nous voulons. La magie, c'est je dis des mots que l'autre est forcé d'appliquer après. L'exemple le meilleur que j'ai, c'est une machine à boisson qui fonctionne bien. On met la pièce, la machine est obligée de me donner un coca. Eh bien, la magie, c'est un peu comme ça. Et depuis tous les siècles, il y a des gens qui ont essayé de développer de la magie. On appelle ça de la magie blanche, de la magie noire. Je vais vous dire, la magie, elle n'a qu'une couleur, elle n'est pas bonne. Parce que la magie est l'opposé à la relation et opposé à l'amour. On essaye de manipuler un autre, on essaye de manipuler quelqu'un, on essaye de faire l'offrande qu'il faut pour que telle personne ait telle chose qui lui arrive. Vous savez ce qui se passe avec Dieu ? Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il n'est pas une machine, il est une personne qui va entrer en relation avec nous. Des fois, il répondra à nos prières et il guérira de manière incroyable. Il nous invite à prier pour les malades. Des fois, il ne guérira pas. Pourquoi il ne le fait pas toujours, à votre avis ? S'il le faisait toujours, qu'est-ce qui se passerait ? Il serait comme une machine, ça deviendrait magique. On dit les trois premières paroles du Notre Père, la main gauche est guérie. Les trois suivantes, la main droite. Il faut que j'aille jusqu'au bout, comme ça, il y a le visage, il y a tout qui est bien guéri. Il est où Dieu là-dedans ? Ça devient une machine. Et Dieu veut tout sauf être une machine. Dieu veut être une personne qu'on apprend à aimer et qu'on apprenne à l'aimer à travers sa création, en aimant notre prochain. J'aimerais que nous visitions ce Notre Père et que nous apprenions à le prier ensemble. D'abord, comment ça démarre ? En général, au temps de Jésus, on reconnaissait que Dieu était Père. On reconnaissait que Dieu était le Créateur de l'univers. Mais Jésus a une façon un petit peu particulière de dire Dieu. Il ne dit pas Adonai, qui était le nom Dieu, qu'on va voir un petit peu juste après, ou qui est Seigneur. Il disait Abba, en hébreu ou en araméen. Il disait Abba, qui veut dire Père. Qui n'est pas tourné vers lui-même, comme le symbole Abba le fait. Vous observerez le symbole Abba, ils ont détourné le sens de Père, au lieu de l'ouvrir vers l'extérieur, il est tourné vers l'intérieur. Vous avez déjà vu les deux B de Abba ? Le groupe de musique, il est refermé sur lui-même. Au lieu d'être une paternité qui se tourne, qui se transmet, ça va être une fraternité où il n'y a pas de père. Il y a des bonnes paroles de Abba, mais j'aimerais vous dire, il y a quelque chose d'un message qui était transmis à travers ça, qui n'était pas la paternité. Si vous aimez Abba, on peut en discuter ensemble, mais c'est un point important que ce groupe communiquait, et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'aimaient pas ça. Et Jésus est vraiment Abba, il parle vraiment de Dieu Abba, Père. Un Père qui est présent, un Père qui réagit, un Père qui est saint, un Père qui est droit. Et Jésus, la traduction qu'on a, c'est notre Père, parce que Abba, c'était vraiment Papa. Plus que Père, c'était vraiment Papa. Papa. Il lui parlait comme finalement s'il reconnaissait son autorité et qu'il était proche. Notre problème en tant qu'être humain, c'est que quand on est proche, on a tendance à oublier l'autorité de l'autre. On veut tous être amis, copains. Quand on reconnaît l'autorité, on a tendance à s'éloigner, parce qu'on ne veut pas quelqu'un qui domine sur notre vie. Notre problème, c'est que tant qu'on n'a pas vécu une relation d'autorité saine, où il y a une proximité et un amour réciproque, on est des personnes qui ne grandiront pas, qui apprendront très peu. Parce que Jésus veut nous apprendre que Dieu est un Père qui est vraiment le Tout-Puissant, mais qui est aussi le tout aimant, celui qui nous aime vraiment. On peut se rapprocher de lui sans avoir peur. On n'a pas besoin de chasser Dieu le Père de nos vies pour qu'on soit en paix et joyeux ensemble. C'est un message fondamental pour notre société moderne. L'autorité peut être une autorité aimante, une autorité douce et bonne. C'est l'autorité de Dieu. Avec notre Père, il y a déjà tout un concept de Dieu qui est présent, une compréhension de Dieu. Un Dieu doux, un Dieu Abba, tourné vers les autres, qui qui ne se préoccupe pas de lui-même, qui se préoccupe de servir les autres, qui se préoccupe d'inviter les autres à la relation, une relation dans laquelle plus vous serez proche de Dieu, plus vous allez devenir amis. Dans notre culture, on aimerait bien commencer par le horizontal et après, on avance ensemble. Mais si vous n'avez reçu de personne, vous ne grandirez jamais. Si vous n'avez reçu de personne, vous ne grandirez jamais. Vous avez besoin de recevoir de personnes qui connaissent plus que vous. Vous avez besoin de cette verticalité qui transmet la vie. Et en même temps qu'il y a cette verticalité, quand vous avez des serviteurs de Dieu comme Abraham qui marche avec lui pendant un temps, est-ce que Dieu veut des esclaves? Non. Vous savez comment on a appelé Abraham quand il a marché avec Dieu suffisamment longtemps? Ami de Dieu. Abraham était ami de Dieu. Tout comme Jésus est ami de Dieu. Nous sommes appelés à commencer par dire que Dieu est Père pour devenir progressivement ami avec Dieu. Mais vous ne deviendrez pas ami avec Dieu si vous n'acceptez pas votre autorité ou son autorité. Le danger dans nos vies, c'est qu'on veut faire ce que nous voulons. Vous avez entendu dans le sketch que ta volonté soit faite et puis après que ton règne vienne. Et la personne va se mettre en colère et on va en discuter parce qu'il trouve que Dieu ne fait pas bien son travail. Quand on reconnaît la paternité de Dieu, on reconnaît son autorité et on va le voir dans les trois prochaines prières. Vous avez vu sur le graphique, sur l'image, l'image de fond, qu'est-ce que c'est en brun? C'est un paysage, c'est une sorte de coucher de soleil ou de lever de soleil. On peut penser que c'est un lever de soleil où le soleil est présent, il y a quelques nuages pour représenter les cieux et il y a le soleil. Cette image de fond est finalement une image de la création et se rappeler que Dieu, pour l'ancien temps, la notion de ciel, c'est ce qui était au-delà de la terre, ce qui dépassait l'univers qu'on connaît. Aujourd'hui, on a des satellites qui vont au-dessus de la Terre. On pourrait dire Dieu qui est créateur de l'univers pour nous. Quand on dit qu'il est aux cieux, c'est pas que Dieu est situé sur un petit nuage avec ses deux pieds bien assis sur un nuage. Ça veut dire que Dieu est au-delà. Dieu est au-delà du monde qu'on connaît, qu'il est bien plus, qu'il a créé ce monde. Donc notre Père qui est aux cieux, c'est reconnaître que Dieu est Père, qui est un Père aimant, et qu'il est au-delà de notre univers. C'est déjà tout ce qu'il y a dans ce Notre Père. Ensuite, vous avez une première image. Alors vous voyez, il y a trois images verticales qui sont ensemble, après trois images un peu décalées qui vont après. Vous voyez? Les trois premières images, il y a un dessin, on va expliquer, vous l'avez déjà vu dans les 10 commandements. Il y a ensuite une couronne, et puis un globe terrestre. Ensuite, il y aura trois images séparées, ça sera pour le pain, le jugement avec un marteau qui tape, et puis des chaînes brisées. C'est la deuxième partie. La première partie, c'est une partie qui est en relation avec Dieu. Et la deuxième partie, ça sera plus en relation avec nous, avec notre prochain et avec la création. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Comme dans les 10 commandements, comme quand Jésus, on lui demande qu'est-ce qui est le plus important dans la loi, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et ton prochain comme toi-même. La première partie fait partie de Dieu, du côté de Dieu. S'il est le Créateur, comment on entre en relation avec lui? Qu'est-ce qu'on a à dire? Eh bien, quand vous priez, vous pouvez dire que ton nom soit sanctifié. Ce dessin, ce qui se rappelle, c'est quoi? Ce dessin en blanc, c'est le nom de Dieu en hébreu, tel qu'il a été révélé au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, tel qu'il était marqué. Il veut dire « soit je suis, soit je serai ». Je suis, ça veut dire que c'est celui qui est toujours, c'est celui qui ne bouge pas, celui qui est au-delà de l'univers et qui finalement n'est pas en train d'être balayé par les événements, qui est stable. C'est avec Dieu qu'on va pouvoir trouver une stabilité dans nos vies. Et aussi, Dieu est celui qui sera. Et quand Moïse demandait « Dieu, dis-moi qui tu es », il lui dit « Ehyeh Asher Ehyeh » en hébreu qui veut dire « je serai qui je serai ». Moïse voudrait que Dieu lui fasse un gros miracle et qu'il lui fasse une promesse, qu'il fasse quelque chose et que Moïse puisse regarder. Dieu lui dit « Moïse, si tu es fidèle à ce que je te dis, tu vas voir des miracles. » Mais il va falloir que Moïse soit fidèle parce que Dieu est un Dieu partenaire, c'est un Dieu d'alliance, d'accord, d'entente, de travail en commun. Si on fait ce que Dieu nous demande dans nos vies, on voit des miracles, on voit des transformations dans nos relations, dans nos vies. La question, c'est est-ce que nous voulons faire sa volonté? Et souvent, on se focalise sur les autres. Ne commençons pas par les autres. Commençons par Dieu et ensuite notre prochain. Cette première parole, que ton nom soit sanctifié, c'est vraiment que le nom de Dieu soit honoré. Où? Dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifié? Rendu saint, d'accord. Ça veut dire quoi? Que le nom de Dieu soit saint.
Sans péché.
Sans péché. Donc,
par exemple,
qu'il ne soit pas associé avec le péché, qu'il ne soit pas associé avec des choses inutiles ou vides. On pourrait dire aussi que le nom de Dieu soit honoré. Pas associé au péché, c'est l'aspect négatif. L'aspect positif, c'est que le nom de Dieu soit honoré. Que nous honorions Dieu et que son Dieu, son nom, soit vraiment révéré, respecté. Dans la foi d'Israël et dans l'Ancien Testament, le nom est associé à la personne. Le nom est associé à la personne. Ça veut dire que quand on connaît le nom d'une personne, on connaît une partie de son identité. Aujourd'hui, nous avons perdu un peu de cela. Mais dans nos noms, il y a une partie de sens qui est restée. C'est notre culture moderne depuis quelques siècles qui a oublié cela. Mais les noms étaient donnés pour avoir un lien entre notre identité et ce nom. Le nom n'était pas donné au hasard. Souvent, les gens priaient avant de donner un nom, et ensuite donnaient ce nom, et tous les noms avaient un sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des livres sur les prénoms pour aider les gens à retrouver cette notion que les noms ont un sens. Et si vous vous demandez, vous pouvez discuter avec nous et on vous aidera. Chaque nom a un sens. Alex Andros voudra dire celui qui aide les hommes. Dominique, Dominicus, veut dire Seigneur, que Dieu soit Seigneur. Frédéric vient de l'allemand Friedrich, le royaume de paix. Juliette, ça viendra de Julius, de Jules César. Vous aurez tous les noms. Pierre viendra de Petros en grec, qui veut dire pierre, de Cephas, qui veut dire un roc, qui s'enracine. Chaque nom va avoir un sens. Et ces noms, ben, pour vous, je vous invite à le chercher, le sens. Si vous ne l'avez pas, le connaissez pas, cherchez, sur Internet on trouve, et de méditer s'il y a un enseignement que vous pouvez recevoir à travers votre nom. Que le nom de Dieu soit honoré, sanctifié, qu'il soit révéré, respecté, que Dieu soit vraiment reconnu comme Père et non pas comme copain. Aujourd'hui, nous avons la tentation inverse. La culture d'il y a à peu près 50 ans avait la tendance à parler du Père comme l'autorité qui avait le droit de faire du mal sans avoir à rendre de compte. Le Père était celui qui allait battre l'enfant sans avoir donné l'explication. S'il est fatigué, il a le droit de battre, l'enfant n'a rien le droit de dire. Ça existait. C'est pas bon ça. Est-ce que c'est de l'autorité ça? Non, c'est de l'abus d'autorité. C'est pas une autorité qui transmet, c'est une autorité qui détruit. Maintenant, nous sommes en train de basculer avec l'inverse. L'inverse, c'est il n'y a plus le droit de donner une claque à un enfant. Il n'y a plus le droit de... On veut juste être des amis entre amis, mais on ne veut plus d'autorité qui nous dise ce qu'on fait. Je suis adulte. Maintenant que je suis adulte, personne ne doit dire ce que je fais. Je vais vous dire une chose. Quand vous priez le Notre Père, vous êtes en train de vous préparer à un chemin où vous reconnaissez l'autorité de quelqu'un qui va vous dire ce qu'il faut faire pour vous guider dans un chemin de vie. Si vous êtes capable de faire votre vie joyeusement, sans aide extérieure, allez-y. Mais je vais être honnête avec vous, ne pouvez pas trouver la joie et la paix et l'amour seul. Vous avez besoin d'enseignement, tout comme j'ai besoin d'enseignement. C'est pour ça qu'on a à honorer et sanctifier le nom de Dieu. La deuxième partie, vous voyez, donc il y a le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié. Alors, en même temps que vous l'apprenez, je vais vous donner un défi, d'être capable de dire le Notre Père à l'endroit et à l'envers. À la fin du culte, on va dire le Notre Père ensemble à l'endroit et à l'envers, avec les images. Vous devrez penser aux images et la partie qui est associée, d'accord? Donc on va répéter ensemble. La première partie, c'est facile. Notre Père qui est aux cieux, vous la connaissez, ou on va répéter tous ensemble, d'accord? Notre Père qui est aux cieux.
Notre Père qui est aux cieux.
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton nom soit sanctifié.
Maintenant, nous allons voir la deuxième partie. Que ton règne vienne.
Que ton règne vienne.
Vous voyez une couronne? Cette couronne, elle revient à qui? Elle revient à Dieu. Dans nos vies en général, on veut faire ce que nous voulons. Vous savez comment on reconnaît qu'on fait ce qu'on veut? C'est qu'on donne des informations sur nos problèmes, nos choix, que de manière un petit peu. Il n'y a personne à qui on ouvre complètement notre cœur. On a besoin de personnes à qui on ouvre complètement notre cœur. Par exemple, il y a eu telle chose que j'avais dit que je ferais, et puis je ne l'ai pas fait. Aux gens dans ce monde, je donne l'excuse, oui, mais il y a eu tel autre problème. La réalité, c'est que j'ai oublié. Ou bien j'ai manqué ma parole. Ou bien j'ai pas fait quelque chose que j'aurais pu faire. Et on va cacher cela. Le malheur, c'est qu'on est prisonnier de ce secret. On est prisonnier de ces secrets sur nos vies que l'on garde, et nos vies sont des mensonges. Nos vies sont des mensonges. On apporte une apparence qui n'a rien à voir. Et vous savez ce qui se passe pour les gens qui vivent dans le mensonge? Je vais vous dire, la première conséquence, ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Vous ne pouvez pas avoir d'estime de vous-même quand vous vivez dans le mensonge, parce que vous le savez, et votre mensonge vous tue. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans une rencontre où on vous estime, parce que vous ne vous estimez pas. Vous ne vous croyez pas assez bon pour pouvoir parler à une personne de confiance des endroits où vous avez failli. Et la relation avec Dieu, le but, c'est de trouver cette relation où le plus profond de nos échecs va être accueilli par Dieu et il va nous guider. Quand, dans le sketch, le monsieur lui dit que je ne suis pas un saint, qu'est-ce que Dieu lui répond?
Je le sais.
Je le sais. Est-ce que Dieu lui dit oui, et d'ailleurs, tu vas aller en enfer? Non, il lui dit, je le sais. Vos secrets sont des secrets de polichinelle. Dieu les sait depuis toujours. Et quand vous essayez de les cacher, vous essayez seulement d'imaginer une relation avec Dieu. Dieu le sait. Mais il n'est pas un Dieu violent. Même quand Adam a péché, il ne va pas lui venir avec son doigt méchant lui disant, sale Adam, je t'avais dit, je vais te détruire tout de suite. Il vient pour laisser une chance à Adam de lui dire ce qui s'est passé. Il est le créateur de l'univers, qui sait tout. Comment il vient vers Adam? Il lui dit, Adam, où es-tu? Il le sait où il est, mais il veut une relation, il ne veut pas écrabouiller. Il lui dit, où es-tu, Adam? Et ensuite, quand Adam dit, je me suis caché, il dit, pourquoi? C'est parce que j'avais honte. Et Dieu qui lui dit, est-ce que tu as mangé du fruit que je t'ai interdit? Il ne lui dit pas, c'est horrible. Il lui dit, est-ce que tu as fait ce que je t'avais dit de ne pas faire? Adam lui dit pas, je l'ai fait. Il lui dit, c'est pas moi, c'est elle, la femme à côté de moi qui l'a fait. Tout ça, c'est pour, quand notre vie ne reconnaît pas la royauté de Dieu, nous sommes malheureux. Nous sommes prisonniers de nos secrets. Et la conséquence, c'est qu'on se dit, je n'y arriverai jamais, je suis nul. Et notre image de nous est très mauvaise. Parce que ces secrets nous détruisent. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin d'un Dieu aimant qui nous ouvre un chemin pour être libérés de toutes ces choses qui ne vont pas dans nos vies. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Pour ouvrir votre cœur et lui dire tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Et demander le chemin. Parce que je vais vous dire, votre image de vous pourra être redressée. Ce qui est tordu en vous pourra être redressé. Mais pas dans le secret, dans la lumière de Dieu. C'est pour ça que quand on a dit que ton règne vienne, c'est d'abord dans notre vie, c'est reconnaître son autorité. Avant de dire, va tuer Kadhafi, ce méchant leader en Libye, va faire cela, va tuer ces méchants manifestants. Qu'est-ce que nous savons? Est-ce qu'il y a du péché dans ces nouvelles qu'on voit à la télévision? Oui. Est-ce que c'est notre travail d'aller juger? Non. Notre travail, le premier travail, c'est de laisser Dieu juger en nous, montrer ce qui va, ce qui ne va pas, pour qu'on puisse être libéré, qu'on soit transformé, qu'on soit changé. La prière est dangereuse. Si vous priez sincèrement, vous allez être transformé, parce que Dieu veut vous transformer. Dieu veut le meilleur pour vous, plus que le meilleur que vous avez jamais souhaité pour vous. Imaginez une voiture qui est à moitié construite, qui a deux roues mises, et qui dit, je veux sortir de la chaîne d'assemblage, je veux faire ma vie. Imaginez qu'elle roule avec sa roue gauche et puis elle traîne sur la roue droite parce qu'il n'y a pas la roue droite. Et elle dit, moi ma vie ça va être d'être complète. Je vais aller chercher et me fabriquer une roue. Elle va trouver cette voiture un vieux pneu en bois avec du bois autour qu'elle va coller à la roue peut-être. J'imagine. Si elle était restée dans les mains de ceux qui la fabriquent, elle aurait pu être complète, être réparée, être rendue apte à faire ce pour quoi elle est faite. Nous sommes pareils. Si nous sortons des mains de Dieu, des mains du potier, une partie de notre vie est ratée. Et nous serons des ratés, des échecs dans nos vies que nous essayerons de cacher toute notre vie. Mais je vais vous dire à quoi ça sert de cacher notre échec. Pourquoi pas retourner dans les mains du potier ? Pas les mains des hommes, les mains de Dieu le Père. Quand on a demandé à Jésus comment prier, il n'a pas dit « prier mon frère », il n'a pas dit « prier ma mère », il n'a pas dit « prier ma sœur », il n'a pas dit « prier mon ami », il a dit « prier mon Père ». Notre Père qui est aux cieux. Quand Jésus, on lui a demandé « comment prier ?» Notre Père. Est-ce qu'on peut demander des choses à Jésus ? Oui. Mais d'abord, Jésus nous dit « tournez-vous vers le Père ». C'est lui à qui il faut demander, vers lui qu'il faut se tourner. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez le dessin pour cette partie-là, la troisième ? C'est le globe. Et ce globe, finalement, ça rappelle la terre et au-delà de la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est le désir que la volonté de Dieu se fasse non seulement dans nos vies, mais au-delà de nos vies. Comment est-ce que la volonté de Dieu va se faire dans le monde, à votre avis ? Est-ce que Dieu va envoyer 300 000 anges, si on prie bien, et que tes 300 000 anges vont donner une raclée à tous les méchants, que ce soit des méchants en autorité, que ce soit des méchants où qu'ils soient ? Vous savez comment Dieu va faire sa volonté sur terre ? Il va utiliser vos pieds, vos mains, vos bouches, vos cœurs pour aimer et pour manifester l'amour dans ce monde. C'est le moyen privilégié que Dieu veut utiliser. Et le problème dans notre monde, c'est que nous ne voulons pas. On veut le bien pour nous, on ne veut pas le bien pour les autres. Mais tant qu'on est égoïste, on empêche Dieu de faire sa volonté. Est-ce qu'il pourrait ? Oui. Mais quel est son but ? De nous donner une raclée ? De tuer tous ceux qui ont fait du mal ? Non, son but c'est de sauver le maximum, d'amener le maximum à la connaissance de ce Dieu aimant qu'il est, ce Dieu qui est Abba, Papa, notre Père. Et quand vous priez, vous pouvez dire ou notre Père, ou vous pouvez dire Papa, qui est la traduction de l'araméen que Jésus avait dit finalement. Abba, notre Père, Papa. Donc la troisième image, on peut se rappeler, il y a trois premières images et les images 4 à 6. Hein, donc l'image numéro 1, c'est quoi le titre, le texte qui est associé ? Qui est aux cieux. La deuxième image, c'est quoi ? Alors pardon, je me suis trompé. Il n'y a pas d'image pour notre Père qui est aux cieux. Il y a l'image globale. Ou si vous voulez, on peut dire l'image globale. On peut faire comme ça. Image globale, notre Père qui est aux cieux. Ensuite, 2 à 4. La deuxième image, ça va être que ton nom soit sanctifié. La troisième. Quatrième. D'accord. Rappelez-vous, je vais vous demander image numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, pour que vous puissiez dire notre Père à l'endroit et à l'envers, et que vous puissiez réfléchir à l'ordre, comment il a été présenté par Jésus. La première moitié du Notre Père jusqu'à que ton, sur la terre comme au ciel est une moitié qui est quasiment identique à une prière juive qui s'appelle le Kaddish. Le Kaddish, c'est comment sanctifier le nom de Dieu, est une prière qui ressemble beaucoup à cette première partie. Donc on va la finir, cette première partie, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand nous faisons ça, nous reconnaissons que nous sommes vraiment des serviteurs. Que ta volonté. Quand Jésus s'est retrouvé près de mourir, la veille de sa mort, il a dit « Si c'est possible, Seigneur, enlève de moi cette coupe, cette souffrance qui se prépare pour moi. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » C'était au jardin de Gethsémani. Alors que nous approchons de Pâques, dans quelques semaines, je vous invite à méditer quand Jésus dit « Que ta volonté soit faite. » Est-ce que des fois, ça sera douloureux pour nous de dire que ta volonté soit faite ? Des fois, ça sera difficile. Mais qui a appris quelque chose qui est important dans sa vie sans avoir des moments où c'est difficile ? Qui d'entre vous a appris des choses importantes simplement en jouant, sans avoir des moments où il faut travailler, où il faut faire un effort? Toute relation nécessite apprentissage. Dans quel couple est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où il y en a un qui a dit une parole difficile, puis il a fallu pardonner, et puis dire « écoute, c'était pas sympa ce que tu m'as dit ». Dans quelle relation qui a de l'importance, il n'y a pas eu d'effort? De faire le repas pour l'autre, de l'aider pour construire quelque chose. Tout cela, la relation nécessite un effort. Que ta volonté soit faite, c'est dire « je mets l'autre en premier, je mets Dieu en premier ». Dieu est la seule personne qu'on peut mettre en premier de manière absolue sans danger, parce qu'il nous aime de manière absolue. C'est lui qui nous a créés, on n'a pas de risque d'être manipulé, parce que si Dieu ne veut pas être manipulé par de la magie, de la même façon, Dieu ne veut pas vous manipuler. Il ne vous forcera jamais à faire quelque chose que vous ne voulez pas. C'est ça le drame de la relation avec Dieu, c'est que nous les humains, on aimerait bien un Dieu pilote, qui pilote les autres, mais on n'aimerait pas qu'il nous pilote nous. On aimerait bien que Dieu nous contrôle. La tête de Pierre. Que la volonté de Dieu soit faite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous croyez que la volonté de Dieu est faite parmi les anges? Ou que Dieu est sans arrêt en train de se battre avec des mauvais anges et puis de leur dire « cette fois-ci, je vais les battre ». Sa volonté est absolue au ciel. Il fait ce qu'il veut. Sur la terre, il permet à ce que nous faisions des choix, parce qu'il veut notre amour. Il ne veut pas notre obéissance servile. Il ne veut pas des esclaves, il veut des amoureux. C'est pour ça que nous avons à apprendre à librement dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne peux pas vous forcer, personne ne peut vous forcer à dire à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais si vous le dites, et que vous le priez, et que vous le croyez, et que vous mettez en pratique cela, votre vie va être transformée. Votre vie va être transformée parce que vous n'allez pas dire « je fais seulement ce que j'ai envie, oh, ça ne me plaît pas, mais Seigneur, si tu as envie que je fasse ça, je le fais. » Et je suis sérieux avec ça. Donc c'est les quatre premières parties. Première partie, le titre, ensuite 2, 3, 4, les trois premiers, on va la partie du côté de Dieu, on va cacher la feuille. On va voir si on peut dire à l'endroit et à l'envers. Donc, on va commencer avec Sandra, on va faire la suite. Donc, vous dites chacun une partie. Partie 1, Sandra.
Notre Père qui est aux cieux.
Lily. Tommy. Pense aux images. Pense aux images. Ok ? Alors, non, non. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, c'était la troisième partie, la quatrième partie. Très bien, Alain. Ensuite, on va repartir, mais à l'envers. Le 4, Anton, c'est quoi? Pensez aux images. Vous êtes habitué à apprendre sans les images. Sans les images, votre mémoire est fragile. Avec les images, la mémoire est plus forte. Juste avant la couronne, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la couronne? Voilà, je suis obligé de vous dire, je peux vous dire, rappelez-vous des images, mais pensez aux images. Il y a la terre, c'est pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au-dessus, il y a la couronne, et au-dessus, il y a le nom. Frédéric, il y a quoi juste avant ça? D'accord. Alexandre, c'est quoi la troisième partie? Voilà. C'est quoi la quatrième partie, Dominique?
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Sylvaine, c'est quoi la première partie? Notre Père. Très bien. Juliette, la deuxième partie. La quatrième partie, Pierre. Pense aux images. Je ne peux pas vous forcer, mais si vous pensez, voilà. Alors, associez les images avec le texte. Que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta
sur la terre.
Pierre, on... Oui.
Sur la terre, je retiens, mais il manquerait un petit...
Je pense que le ciel est derrière, que tu as l'ensemble. C'est difficile de faire ciel et terre, mais on pourrait peut-être améliorer. Je te réinterroge sur le 4 tout à l'heure. Hein. D'accord. Alors, on a les 4 premières parties. Ensuite, on va voir la partie qui se tourne vers nous. Jésus avait dit, le premier commandement, c'est « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. » Ensuite, il a dit « Tu aimeras ton prochain, point. » Oui, il a dit quoi ?« Comme toi-même. » Aimer son prochain comme soi-même. On a à apprendre à s'aimer. S'aimer fait partie des commandements de Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles se tuer soi-même est enfreindre finalement un commandement de Dieu. S'aimer, c'est découvrir qu'on a de la valeur, que Dieu nous a créés avec des capacités et qu'on est digne, qu'on a de la valeur. Et ça, c'est un point important. Et la partie numéro 5, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, nous rappelle qu'on a des besoins et qu'on demande à Dieu de remplir ses besoins. Au temps de Jésus, on se rappelait déjà de l'histoire de l'Ancien Testament. Moïse, dans le désert, quand le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert, ils étaient nourris comment ? La manne dans le désert. Dieu leur donnait à manger chaque jour pour jusqu'au lendemain. Et ça correspond un peu à cela. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien des fois. Certaines traductions auront notre pain du lendemain, parce que ça pourrait être aussi une traduction. Le grec, on ne sait pas très bien comment le traduire, mais ça peut être finalement le pain pour une durée d'un jour. Et ça peut être le pain du lendemain si c'est le soir. Et finalement, on a à se rappeler qu'à l'époque de Jésus, les gens étaient payés avec leur salaire tous les jours. Ce qui veut dire que si on ne recevait pas le salaire pour quelques jours, ça pouvait être une catastrophe. Simplement ne pas recevoir son salaire pour quelques jours, si vous aviez une famille, pouvait être une catastrophe. Tout d'un coup, vous deviez courir parmi les amis et demander de l'aide parce que... Et vous avez l'histoire d'un homme qui tape à la porte de quelqu'un dans l'évangile de Luc et qui demande d'avoir du pain juste pendant la nuit. Pourquoi ? Parce que on recevait suffisamment pour juste court terme. Donc quand il est dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », c'est « Donne-nous ce qui est suffisant ». On n'est pas appelé à avoir assez pour 10 000 ans. Dans notre génération, c'est plutôt tous les mois qu'on reçoit de quoi vivre. Vous pouvez lire aussi en disant « Donne-moi ce dont j'ai besoin pour le mois suivant ». Et je te fais confiance. Et à la fin du culte, on aura la dîme. La dîme, c'est dire, je te fais confiance et je te rends grâce pour ce que tu m'as donné, je te donne une partie de mon salaire, un dixième, comme c'est enseigné dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Finalement, par reconnaissance. Finalement, par reconnaissance, de dire, je reconnais que ça vient de toi. Et cette approche, finalement, c'est une approche de fidélité, de confiance en Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous voyez ce pain cassé, ce pain brisé, c'est vraiment cette confiance. Est-ce que vous faites confiance à Dieu que vous aurez assez ? Est-ce que vous faites confiance à Dieu que vous aurez assez ? Ou est-ce que vous êtes plein de soucis en train de chercher comment faire ? J'aimerais vous dire d'un côté, c'est bon de planifier. De l'autre côté, c'est dangereux de se remplir des soucis dans notre cœur et de ne pas faire confiance à Dieu. Donc donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est vraiment donne-nous ce dont nous avons besoin chaque jour. Et de demander à Dieu de nous donner, c'est une façon de reconnaître que nous ne sommes pas les propres maîtres de notre vie. On a toujours le danger de dire, par ma force, je vais acquérir ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a à travailler ? Oui. Est-ce qu'on a à faire des efforts ? Oui. Mais pas à croire que nos efforts seront suffisants pour obtenir tout ce dont nous avons besoin. Vous pouvez répéter avec moi cette partie numéro 5. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ensemble. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous voyez où l'image se trouve ? Elle est juste à gauche de la terre. Alors, cette image, finalement, est suivie par... Qu'est-ce que vous avez comme image juste après ? Le maillet du juge. Et il fait quoi ce maillet ? il tape comme quand il y a un jugement. Le pardon, en grec, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, c'est aphesis, qui veut dire annuler les dettes, qui veut dire finalement pardonner. Il y a le mot don, donner dans pardonner. Dans le pardon, c'est vous donner ce que l'autre finalement a en dette envers vous. Pas au niveau financier d'abord, même si ça peut prendre cette forme, mais tout d'abord au niveau des offenses. Pardonne-nous nos offenses. On demande à Dieu de ne pas nous condamner pour toutes les choses que nous avons faites. Parfois nous avons menti. Parfois nous n'avons pas suivi les règles qu'on nous donne. Par exemple, dans l'État français, il y a des règles. Quand vous avez une assistance, vous devez respecter telle règle. Des fois, vous ne respectez pas les règles ou je ne respecte pas et on a menti. Quand on fait ça, c'est un péché contre l'État. Hein ? C'est pas secondaire. Et j'aimerais vous dire, la foi chrétienne, dans la mesure où les lois ne sont pas opposées à la foi, elles doivent être respectées, ces lois. Mais pour qu'on les respecte, il faut qu'on ait confiance en Dieu. Quand on se dit « je ne vais pas y arriver », qu'est-ce qu'on fait ? Je prends en charge mon destin et je dis « non ». Je dois mentir sur ma déclaration d'impôt pour arriver à payer pour ma famille. À qui je fais confiance ? À moi. Je ne fais pas confiance à Dieu. Et notre vie se trouve remplie de fautes où on va mentir à quelqu'un parce qu'on ne veut pas perdre la face. Deux enfants se battent à l'école. Un enfant a tapé l'autre. Les parents viennent, mais le père de l'enfant qui a été violent n'a pas envie de perdre la face. Qu'est-ce qu'il va dire ? Mon enfant ne ment jamais. S'il dit qu'il n'a pas tapé, c'est que c'est vrai. Est-ce que c'est possible, ça, dans les écoles ? Ça va, quand c'est votre fils ou votre fille qui s'est fait taper à l'école, est-ce que c'est joyeux, ça ? Ça, c'est le péché. C'est le mensonge qui est lié au péché. Et tant qu'on n'est pas dans les mains de Dieu, on va pécher. C'est automatique. Parce que quand on ne reconnaît pas Dieu comme le maître, et qu'on a notre vie entre les mains, on n'est pas capable de trouver les choix justes, et on va toujours avoir des moments où on humilie quelqu'un, où on fait du mal à quelqu'un. On va dire « oh, mais c'est juste en rigolant », ou « c'est juste ». Pour ma part, c'était un des péchés que j'avais qui était très fort. J'avais l'habitude de blaguer très rapidement et d'humilier quelqu'un. On avait une soirée, je pouvais taper 20 fois sur la personne avec 20 blagues différentes, et la personne, elle était humiliée. J'avais un ami une fois qui était venu me voir et qui m'a dit « Stéphane, tu m'as brisé ce soir devant mon ami. » Et j'ai dû me repentir. J'ai dû dire « Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ? C'est des vieilles habitudes de péché. Comment, pourquoi c'est venu ? Parce que j'avais appris à humilier avant d'être humilié. Et ça faisait partie de moi. Et Dieu, il a dû briser cela. J'ai dû apprendre « Non, Stéphane, tu ne fais pas ça. » Quelles sont les parties de péché dans vos vies que Dieu n'a pas pu encore visiter parce que vous contrôlez encore votre vie ? Où est-ce qu'il y a encore du péché ? Où on va se mettre en avant, on va parler de soi d'abord avant d'écouter l'autre, parce qu'on veut impressionner les autres. Où il est l'amour du prochain ? Pardonne-nous nos offenses. Et maintenant, on arrive au point le plus difficile. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tant que nous sommes naïfs par rapport au péché et qu'on croit qu'on n'a pas fait de péché grave, on est comme Hitler qui continue à détruire les juifs parce qu'il se dit finalement c'est une bonne chose pour l'humanité. On continue à humilier les gens en se disant ça lui apprendra à pas à faire attention, ça lui donne une bonne leçon. On se prend pour Dieu, celui qui décide pour les autres, qui fait la pluie et le beau temps. Et on est un danger ambulant. Quand vous allez commencer à comprendre la profondeur de votre péché, vous allez avoir un moment important. Quand vous prenez la conscience de la sérieux du péché, qui que ce soit, le péché dans vos vies est grave. Soit vous l'avez pris conscience et vous en êtes détourné, soit ce n'est pas encore venu et vous avez besoin d'en prendre conscience devant Dieu. Quand vous prendrez conscience de votre péché, vous aurez deux possibilités. Soit la possibilité de Judas, soit la possibilité de Pierre. Judas, c'est le remords. J'ai péché, je m'en veux, je me referme. Je n'arriverai jamais à être libéré. C'est trop grand mon péché. Quand vous dites c'est trop grand mon péché pour que j'en sois délivré, je vais vous dire d'où ça vient ça. Ça vient de votre orgueil. De votre orgueil de dire je suis plus grand que Dieu et Dieu ne peut pas m'aider. Vous savez quelle taille il a votre Dieu ? Il est petit comme un nain. c'est pas le Dieu de la création, c'est pas le Dieu de l'univers, il manque la foi. Mais si on croit en Dieu, c'est un Dieu qui peut transformer. Et c'est la foi qui commence. Et si c'est un Dieu qui peut transformer, on va prendre conscience que comme Pierre, nos fautes sont graves. Pierre avait renié 3 fois Jésus, juste avant sa mort. Il avait participé finalement avec ceux qui l'avaient rejeté. Et il a pris conscience de la gravité de son péché. Mais Pierre n'a pas fait comme Judas, il ne s'est pas rempli de remords en se disant « je vais me détruire » ou en essayant de détruire les autres. Il aurait eu aussi la possibilité, Judas, de dire « c'est à cause des grands prêtres qui ont condamné Jésus, moi je vais tuer le grand prêtre ». Ça serait une façon de cacher son péché. En général, quand vous refusez de pardonner, c'est que vous n'avez pas pris conscience de la gravité de votre péché et de la royauté de Dieu. C'est comme s'il y a des éléments à mettre en place. L'autorité de Dieu, son amour pour vous, comme notre Père, Papa, nos offenses, quand on a menti, quand on a manqué de respect, et il suffit que vous viviez suffisamment longtemps avec des personnes pour qu'il y ait des moments, des frictions, et que vous ayez manqué de sagesse pour dire un mot qui n'est pas gentil. Pour ne pas pécher, c'est rare, et c'est seulement avec la grâce de Dieu qu'on peut arriver à ne plus pécher volontairement. Seulement avec la grâce de Dieu qu'on peut apprendre ça. Si on veut être quelqu'un de gentil sans sa grâce, on va se casser la figure, on va être quelqu'un qui ment, qui va cacher notre vraie vie et qui sera malheureux. C'est la seule conséquence. Et là, Jésus nous dit, voilà le chemin. Pardonne nos péchés, nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonner aux autres, ça ne veut pas dire que je vais voir celui qui m'a donné des coups en lui disant « Oh, je suis ami avec toi, tu peux continuer à me donner des coups. » Si je faisais ça, est-ce que j'aurais de l'amour pour moi-même? Si j'ai un enfant et que je lui dis « Oh, j'ai pardonné à ton ami qui t'a battu méchamment, retourne à l'école, c'est pas grave, je suis chrétien, je prierai pour toi. » Est-ce que c'est de l'amour ça? Non. L'amour voudra le bien aussi pour l'enfant pour qu'il soit protégé. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on fait comme si rien ne s'était passé. Pardonner, ça veut dire qu'on arrête à être le juge. Je dis, j'arrête de vouloir que la personne soit condamnée par Dieu. Je dis, Seigneur, ça me dépasse. Je te remets ma souffrance, je te remets là où la personne m'a blessé, je la remets à ton jugement. Moi, je ne veux plus la juger. Toi, tu es capable de la juger justement. Moi, je refuse d'être le juge. Je renonce à être le juge. Je te remets la personne. Et quand vous faites ça, vous êtes libéré. Vous n'êtes plus prisonnier de cette relation douloureuse. Vous pouvez commencer à vous détendre et à être libre. Parce que vous n'avez plus besoin d'y penser. Vous n'avez plus besoin de vous fabriquer. Parce que les offenses, une des raisons premières pour lesquelles on s'en rappelle sans arrêt, c'est parce qu'on oublie, on refuse de pardonner. Quand on pardonne, on peut commencer à laisser les souvenirs s'atténuer, s'apaiser. Parce qu'on va pouvoir se séparer de ce souvenir douloureux. Et après, si on a un contact avec cette personne, on demande à Dieu la sagesse. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui est très violent, on va dire « Oh ben c'est bon, j'ai pardonné, je retourne à cette violence ?» Non. On va, comme dans l'enseignement sur le tabernacle qui a été donné il y a quelques semaines, voir si les premières étapes peuvent être faites. D'abord dire à l'autre, tu sais, tu m'avais fait vraiment mal. Si l'autre, on sent qu'il veut la relation. Et si l'autre ne veut pas reconnaître qu'il a fait quelque chose qui a été douloureux ou qui vous dit, oui, mais toi, tu m'as fait quelque chose qui m'a fait mal. Dans ce cas-là, est-ce que vous avez quelque chose à demander pardon? Ça peut être une chose. Et la relation, la réconcilier, la renouveler, se fera dans un processus avec du bon sens. Non pas avec de l'amertume, mais avec du bon sens. Et dans certains cas, l'autre ne fera pas les étapes. Et vous pourrez être librement distant de la personne, mais sans amertume. Vous serez en paix. Parce que la personne n'aura plus accès à votre cœur par votre jugement, votre désir de condamner. Pardonner, c'est premièrement remettre les offenses, refuser d'être juge. C'est intimement lié à la prière qui dit que ton règne vienne, que toi tu règnes. Quand on refuse de pardonner, on refuse que Dieu règne dans cette relation. On décide que c'est nous qui allons faire comme nous voulons. Dans l'image, vous avez vu là, avec ce monsieur qui dit qu'il n'arrive pas à pardonner à cette personne et qui dit « Une fois que je me serai vengé, ça ira beaucoup mieux. » Qu'est-ce que c'est naïf. Je vais vous dire, une fois que vous êtes vengé, en général, l'autre va se venger derrière. C'est le plus classique, ça. Et si l'autre ne se venge pas, c'est que vous avez été tellement méchant que l'autre ne se peut plus se venger et que vous allez vous en vouloir toute votre vie de votre violence qui a dépassé la violence de l'autre, peut-être. C'est un casse-tête. Quand vous entrez dans la violence, vous n'en sortirez jamais. La violence engendre la violence. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Dieu a dit « Ne répondez jamais à plus de violence que ce qu'on vous a fait. » Œil pour œil, c'était limiter la violence. Et Jésus passe à la limite, à l'étape suivante en disant « Pardonnez. Ne vous vengez plus. » Vous pouvez répéter avec moi « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et on va à une étape suivante. On veut être pardonné pour être délivré du mal. On veut être délivré du mal que les gens nous ont fait et du mal que nous avons pu faire. C'est pour ça que le pardon est important. En même temps qu'on est délivré du mal, on veut rester libre du mal pour qu'on puisse être en paix, qu'on soit joyeux et qu'on soit vraiment libre. C'est pour ça que la septième prière, ça sera... Qu'est-ce que c'est comme image ? Des chaînes brisées. Ce que Dieu veut dans vos vies, c'est de briser les chaînes du péché, de briser les chaînes de l'esclavage, de briser les chaînes de l'amertume et de la tristesse, que vous puissiez avoir une vie dans laquelle vous êtes joyeux, dans laquelle vous êtes en paix, dans laquelle il y a de la grâce. C'est le seul but de Dieu. Ces commandements ne sont pas là pour, ou cette prière n'est pas là pour vous humilier, elle est là pour vous libérer. Rappelez-vous, le but du Notre Père, c'est de vous libérer. Et la dernière prière, c'est « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Ne nous soumets pas à la tentation. Tentation, en grec « peirasmos » veut dire « soit épreuve, soit tentation ». Il y a un aspect positif ou négatif. Les épreuves dans nos vies nous aident à grandir. Les tentations, c'est l'aspect négatif qu'on décrirait en français, où on dit « on est tenté à faire le mal ». On ne voit pas le positif. Donc j'aimerais vous dire, quand il y a tentation, c'est épreuve et tentation à la fois. Hein, le mot grec dit les deux. Donc, ne pas nous soumettre, ça veut dire que face aux épreuves que nous avons dans nos vies, que nous ne nous tournions pas vers le mal, que nous n'entrions pas dans le péché. Quand il y a une tension entre deux personnes, que ce ne soit pas la colère qui règne, que ce ne soit pas l'orgueil, la volonté d'humilier l'autre, que ce soit finalement le pardon qui règne, le désir de paix, le désir de la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Parce que plus on apprend à faire ça, plus on pourra construire des relations solides, plus notre vie va être joyeuse, plus notre vie aura de la paix. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu a le pouvoir de nous délivrer du mal. À la fin, quand la personne prie et qu'il dit « délivre-nous du mal », qu'est-ce qu'il dit, la voix de Dieu, entre guillemets ? C'est ce que je ferai. Si vous êtes fidèle à Dieu, si vous priez de tout votre cœur cette prière et que vous demandez à Dieu de vous aider et que vous la mettez en pratique, Dieu, pas à pas, va briser les chaînes du péché et de l'amertume dans vos vies. Si vous êtes prêt à lâcher dans les mains de Dieu votre vie, Dieu va briser pas à pas, une à une, toutes les chaînes qui vous emmènent dans l'amertume, la tristesse. Tout comme cet homme qui priait et qui disait « Il y a toutes ces mauvaises pensées qui traînent dans ma tête ». Oui. À travers le Notre Père, si vous priez le Notre Père, vous avez la clé de la transformation. Vous avez des paroles d'une puissance inégalée. Mais j'aimerais vous dire, il y a pour les agapes, après le culte, il y a des gâteaux. Par exemple, il y a des gâteaux qui sont dans du papier aluminium. Est-ce que c'est un bon gâteau, à votre avis ? Oui ? Imaginez que j'amène ce gâteau aux agapes, au repas, et je dis « c'est un très bon gâteau, ah merci Seigneur pour ce bon gâteau », et je laisse le papier aluminium dessus. Anton me dit « j'aimerais bien voir si le gâteau il est bon », il amène son couteau et il dit « tu veux pas qu'on goûte ?» Je dis « non, laisse-le comme ça, c'est comme ça qu'il m'a été donné, je ne veux pas y toucher ». Puis Anton il me dit « attends, il t'a été donné pour quoi ce gâteau ? Il m'a été donné pour que je le garde bien précieusement ». Puis en même temps, il me dit « Non, écoute, je crois que tu te trompes un petit peu. Si quelqu'un a fait un gâteau, c'est pour qu'il soit mangé, pour qu'on puisse le couper en morceaux, pour qu'on apprécie la qualité de chacun de ces morceaux. » Le Notre Père, c'est pareil. Je vous amène le Notre Père avec son papier aluminium autour. Je vous dis, apprenez-le par cœur, répétez-le et surtout ne changez aucune parole. C'est comme si je vous disais gardez le papier aluminium autour. Cette parole est faite pour être mangée. Jésus a dit, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Le but de Dieu, c'est qu'on se nourrisse de sa parole, qu'on la médite, qu'on la coupe en morceaux pour la méditer, pour l'adapter. Et je vous encourage pendant cette semaine à prier le Notre Père. Des fois, vous allez juste prier comme si c'était le gâteau entier. Vous allez juste dire les paroles en essayant de vous rappeler ce qu'est le sens. Mais je vous encourage ensuite à dire chacune des parties et ensuite à les dire dans votre compréhension. Par exemple, vous direz « Notre Père qui es aux cieux ». Oui, tu es vraiment mon papa. Tu es vraiment mon Père au ciel qui est un bon Père. Pas comme des pères humains qui sont distants ou méchants. Toi, tu es un bon Père. Un Père qui, c'est vrai, va corriger ses enfants, mais toujours avec douceur et avec justice. Tu veux mon bien. Et tu es aux cieux. C'est vrai, je reconnais, tu n'es pas un Dieu visible. On voudrait que tu sois visible, mais toi, tu es un Dieu invisible. Et ensuite, je continue. Que ton nom soit sanctifié. Oui, je veux vraiment, Dieu, que ton nom soit honoré dans ma vie et dans ce monde, et etc. Alors, on va répéter en disant les numéros ensemble, de 1 à 7, en se rappelant des images. Pierre, déjà, tu sais, sur laquelle je t'interrogerai au moins une fois. Et on répète ensemble. Alors, on va cacher l'image, vous essayez de vous rappeler. Donc, 1, tous ensemble. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 4. On va faire deux équipes, hein, équipe de gauche, équipe de droite. Et puis on aura un leader avec Pierre là sur le. Ça va Pierre si je te chahute un peu? Alors, oui, l'équipe va être avec toi. De ce côté-là, numéro 2. Les autres, il faut vous taire. Hein. Très bien. Numéro 4. Numéro 6. Numéro 5. Numéro 7. Anton est le leader de ce côté-là. Hein. Les autres, tous ensemble, juste pour être sûr que vous... Numéro 7. Ok, de ce côté-là, numéro 3. Numéro 1. Ok. Numéro 4. Ok, on va le dire une fois à l'envers, tous ensemble, je fais les numéros. Ok, on le dit une fois tous ensemble et ensuite, je vous encourage dans votre cœur de méditer et de la dire sous votre forme en silence. Et pendant cette semaine, je vous demande, enlevez le papier aluminium autour du cake et mangez-le. D'accord ? Enlevez le papier aluminium autour de notre Père et nourrissez-vous-en. Priez cette prière, C'est l'enseignement que Jésus a donné pour prier. Et nous, les chrétiens, on l'a gardé suffisamment dans le papier aluminium, cette prière. Vous voulez bien vous nourrir de cette prière pendant cette semaine ? Rajoutez vos paroles, apprendre à la prier et vous tournez vers Dieu à chaque fois. Donc, disons ensemble la prière avant qu'on ait un moment en silence pour que chacun puisse prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, guide-nous pendant cette minute, que nous prions chacun dans nos cœurs, notre Père. Amen. Merci Seigneur Jésus pour cette prière que tu nous as enseignée. Merci pour ce chemin que tu as ouvert vers notre Père Céleste. Père Céleste, Papa, nous te remettons cette journée